supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Les élections présidentielles arrivent à grands pas et je n'ai même pas fini de vous parler des articles de notre Constitution qui s'y réfèrent. Nous en étions au titre 2, le président de la République avec ses 19 articles. J'en étais, il me semble, Poupa, tu peux vérifier, à l'article 11 qui parle encore des fonctions du président de la République et qui lui laisse la possibilité de mettre en place un référendum pour tout projet de loi au sujet de l'organisation des pouvoirs publics sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, voire même la ratification d'un traité. Pour un référendum, il est bien entendu que les deux assemblées auront examiné en amont la proposition de loi. Voilà ce qu'il en était de cet article 11. Alors, Poupa ?
Quand même, un point très important qui est dans l'article 11, c'est que, en cas de référendum, et c'est intéressant parce que c'est la souveraineté du peuple qui est évoquée à ce moment-là, c'est que en cas de référendum, avec une réponse positive au référendum, eh ben, la loi doit être promulguée dans les 15 jours. C'est-à-dire que le président doit obéir au peuple le doigt sur la couture du pantalon, ce qui est très rare.
Qui est très rare, ne l'oublions pas, voilà. On le met de côté.
Mais hein. en même temps, on dira que si vous regardez comment on déclenche un référendum, en fait, c'est lui qui décide. Donc, le peuple, c'est lui, quelque part.
C'est un peu vrai. D'ailleurs, on va le voir dans la suite des articles. Et d'ailleurs, je vais poursuivre avec l'article 12. Tu es à la bonne page ?
Oui.
Bon. Le président...
Toujours prêt, comme les scouts.
Ah bah. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Revenons sur cet article 12, qui n'explique pas qu'un agenda. Il demande quand même quelques explications, car la dissolution de l'Assemblée nationale est une arme présidentielle, peu courante, dont le président nomme le Premier ministre, issu d'une majorité parlementaire qui le soutient. Mais la situation peut être bien différente en cas de cohabitation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, entre le président de la République et l'Assemblée nationale, le président de la République sera obligé de nommer un Premier ministre issu de la nouvelle majorité et d'un groupe politique par conséquent opposé. Il y a eu trois dissolutions.
Voilà, on se souviendra tous de Chirac avec Jospin qui devient Premier ministre.
De l'Assemblée nationale sous la 5e, il n'y en a eu que trois, sous la 5e République. Donc en 1900, comme tu le disais, en 1986, souvent... Ah non, tu parlais de Jacques Chirac, je crois, Poupa.
Oui, moi je reviens un petit peu plus en arrière.
En 1980, sous François Mitterrand, 86. Donc M. Mitterrand était socialiste et président de la République depuis 1981. L'Assemblée nationale, élue lors des élections législatives, est une majorité de droite. François Mitterrand nomme alors Jacques Chirac président du RPR à l'époque, au poste de Premier ministre. Et ce sera la première fois sous la Ve République que les deux postes clés de l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre, auront une tendance politique différente. Mais il n'y a pas eu que 86, donc il y a eu 93. Alors que la droite, rassemblée dans une coalition de l'Union pour la France, l'UPF, réunissant la totalité des partis de droite et remportant les élections législatives, François Mitterrand sera contraint alors de nommer à la tête du gouvernement un membre de l'opposition et il choisira Édouard Balladur. Alors, on en a encore un cas. Donc trois dissolutions, quelques années plus tard, et ce sera au tour donc de Jacques Chirac en 1997 de choisir son Premier ministre parmi un des membres de la coalition de la gauche plurielle. appartient à la gauche plurielle. PS, PCF, les Verts, le mouvement des citoyens, je rappelle, mouvement qui avait été fait par Chevènement.
Chevènementiste,
voilà. Voilà. Parti républicain socialiste. Il choisira alors, M. Chirac, le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin. Troisième cohabitation de 1797 à 2002. Tiens, je vous parle de gauche plurielle. C'est ce qui nous a manqué cette année, une union des gauches, non ?
Non, pour moi, non. Rien ne nous a manqué. Voilà, au moins les choses sont claires.
Alors, passons un peu plus vite sur l'article 13 et jusqu'à l'article 19. Mais vous pouvez aller lire notre Constitution avant d'aller voter. Et là, vous vous apercevrez le rôle tout puissant d'un président de la République. Alors, tant qu'à voter, choisissons bien. Ce président, il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs, les conseillers, maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État, les recteurs d'académie, les directeurs des administrations centrales, même s'ils sont nommés, malgré tout, en Conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être exercé en son nom et sans lui. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux qui sont mentionnés dans les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, juste un rappel sur l'article 15 de notre Constitution, dans le titre 2, le président de la République. Le président est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Sous la Ve République, la Constitution attribue beaucoup de pouvoir au président de la République. Par ces articles, on comprend qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, recourir au référendum, saisir le Conseil constitutionnel et nommer 3 de ses 9 membres, dont le président du Conseil constitutionnel. Il est le chef des armées, il est le seul détenteur du feu nucléaire. Enfin, il peut mettre en œuvre des pouvoirs exceptionnels qui lui sont donnés par l'article 16 de la Constitution et pour ces deux conditions textuellement dites dans l'article que je vous lis. L'existence d'une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux de la France. L'irruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Avant de mettre en œuvre ce texte, le président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, le Conseil constitutionnel, dont l'avis est publié. Ils doivent en informer la nation par un message. C'est ce que voulait et c'est ce que appliquait et ce qu'on continue à appliquer à cause du général de Gaulle ou... Je ne sais pas si on peut dire à cause, mais en tous les cas, c'était le général de Gaulle qui le voulait ainsi. L'article 17, je continue, n'est-ce pas ? J'espère que je ne vous ennuie pas trop, mais malgré tout, c'est important, surtout quand nous allons quand même élire un prochain président d'ici quelques jours. Donc, article 17, le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel, donc la fameuse grâce présidentielle. L'article 18, le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Moi, je me dis, quel est l'intérêt de cet article 18 ? Si. Article 19.
Mais si, ça confirme bien que c'est le président qui décide et que même face au Parlement, il peut aller leur parler, mais il n'y a aucun vote.
C'est sa
donc,
parole
quoi qu'ils disent, voilà.
Qui prendra le dessus. Article 19, et c'est le dernier, concernant le président de la République dans notre Constitution. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, mais aussi aux articles 54, 56 et 61, sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables. Donc je reviendrai au plus tard dans une chronique sur ces articles, mais là ce serait trop long. C'est le pouvoir de l'exécutif, président de la République, Premier ministre, d'édicter des normes dans le domaine de l'article 37 de la Constitution de 1958, par opposition au domaine de la loi du 31 mai 2021. Faisant suite à la pandémie Covid, on a rajouté donc à ce texte des articles et qui reformule les pouvoirs du Premier ministre. Et on a aussi rajouté des articles relatifs au couvre-feu, à l'état d'urgence, à la révision du fonctionnement du système de santé et de vote, aussi dans ces dernières conditions. Donc ce sera pour les législatives. Mais je reviendrai dessus parce que là, je crois que ce serait vraiment très ennuyeux de repartir sur tous ces articles qui sont dans notre Constitution et on est obligé de se référer. De tel article, nous repartons sur tel autre. Et de tel autre, nous repartons encore sur un autre article. Donc, tout est lié. Je ne vais pas reprendre tous ces articles, bien sûr, car je finirai vraiment par être ennuyeuse. Mais une fois de plus, je vous invite à consulter notre Constitution. La procédure de révision de la Constitution de 1958, qui a été demandée par le général de Gaulle, nous l'avions vu dans une précédente chronique, est prévue par l'article 89, qui est le dernier titre de la Constitution, donc titre 16 de la révision. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Après encore quelques phrases plus explicites, on peut lire « Le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès et celui de l'Assemblée nationale. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. » Ne peut faire l'objet d'une révision ou ne peut pas faire l'objet d'une révision ? Ne peut faire l'objet d'une révision.
Rassurez Finkielkraut, rassurez Finkielkraut. Rassurez Finkielkraut, Zemmour et puis les autres.
Est-il un mal français qui ne soit incurable ?
Ou radio nostalgie qui nous rendrait coupables ?
Coupable d'oublier nos traditions françaises ?
Au fond d'une mosquée entourée de merguez ?
Est-il un passéisme, une France éternelle ?
Qui protégerait son sol, qui défendrait son ciel ?
C'est pas la Gestapo, c'est pas l'occupation !
Non, c'est pas un fardeau, c'est pas une invasion !
Rassurez Finkielkraut, Zemmour et puis les autres.
La France aime la France, on se sent patriote.
Rassurez Finkielkraut, Zemmour et puis les autres.
Hier c'était hier, notre France est la vôtre.
On peut aimer Hugo et les Misérables,
sortir de nos banlieues basanes et véritables,
capable d'incarner nos traditions françaises,
sans être un bon Gaulois qui souffle sur les braises.
Rassurez Finkielkraut, Zemmour et puis les autres.
La France aime la France, on se sent patriote.
Rassurez Finkielkraut, Zemmour et puis les autres.
Hier c'était hier, notre France est la vôtre.
On peut aimer le rap et la langue française, aimer les mots qui claquent, Ayam et Verlaine.
Remercier la France, la vouloir ouverte,
de toutes les couleurs et si fière d'en être.
Non pas des barricades, un grand remplacement,
plutôt du sang mêlé dont on fait les enfants.
Et si un jour Chanel nous fait des djellabas,
sortez les boubous, les youyous, les shawarma.
Yeah!
viens me voir dans les dom-toms.
En lisant ces articles de notre Constitution, nous pourrions croire qu'il ne manque rien pour bien mener et protéger notre pays. Que pourrait lire notre président, ce texte régalien complet, pourrait nous rassurer sur la réélection d'un chef d'État démocratique. Car il pose les droits et l'organisation étatique de la France, et chaque citoyen peut s'y référer. Mais voilà, cette Constitution évolue sans les citoyens, sans leur approbation, ou avec l'imposant article du 49.3. Ces articles nous enferment aussi dans des non-prises de décision ou des termes incompréhensibles. Certains candidats veulent une réécriture de la Constitution pour une 6e République. Moi, je ne suis pas contre. Nos institutions ont changé. Notre société a changé. Sournoisement, les grands profiteurs se sont accaparés des meilleures places au gouvernement et nous avons laissé faire. Les lobbyings sont plus forts que le contrat social. La corruption et le conflit d'intérêts ont eu raison de l'intérêt collectif. La crise d'austérité, puis le quoi qu'il en coûte, doivent nous satisfaire ? Nous ne sommes plus intéressés par la politique française. Devant la professionnalisation des élites politiques qui nous lassent par leurs promesses, notre vote n'a plus rien d'un vote d'adhésion à un programme. Il exprime majoritairement la contestation. Il serait désormais ancré dans nos pratiques électorales ? Voter contre ou voter utile ? Cette mauvaise utilisation de notre bulletin de vote est évidemment dommageable pour l'esprit de la démocratie. Le président de la République peut être élu avec 10% des voix, si peu pour contenter tout le monde. Les dirigeants et les médias tentent alors de faire croire que les citoyens se désintéressent de la politique. Combien de signes, depuis les bonnets rouges et les grandes manifestations pour les retraites jusqu'aux gilets jaunes, qui exprime au contraire l'aspiration des citoyens à une véritable démocratie. En réalité, les électeurs font avec les moyens du bord. Abstention ? Vote blanc ? Malheureusement considéré comme non exprimé. Le citoyen peut en effet imposer une cohabitation d'un nouveau genre, portée non pas par un parti, mais par une assemblée citoyenne, dite constituante. Notre association, une association pour une constituante, fait partie de celles qui proposent des initiatives de ce genre pour mettre en route un projet démocratique et une mobilisation des citoyens. Pourquoi ne pas espérer des candidats citoyens à la prochaine Assemblée nationale qui seraient en capacité de proposer au nouveau président des réformes novatrices et indispensables, en commençant par l'écriture ou la réécriture d'une nouvelle constitution, en gardant des articles fondamentaux. Il est des moments où l'histoire hésite. On appelle ça des tournants historiques. Ce n'est pas moi qui le dis, mais André Bellon, dans son livre « Pour la souveraineté du peuple ». Une autre phrase tirée d'un merveilleux petit livre d'Edgar Morin, « Réveillons-nous », et que je vous conseille vivement de lire. Il dit « Ce qui relèveront le défi, viendront de divers horizons. Peu importe sous quelle étiquette, ils seront les redresseurs de l'espérance. » Vous voulez en parler ? Venir me rejoindre dans un cercle constituant à Moissac ? Vous pouvez me contacter par mail pour une constituante 82@free.fr ou sur le site pour une constituante. Merci et à la semaine prochaine ! Avec, je l'espère, les jeunes de la Marche pour le climat de Montauban. Et avec les articles de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement. Un beau programme. Le 9 avril, ne l'oublions pas, le 9 avril prochain, une grande marche pour le futur sera organisée sur toute la France. À Montauban, mais peut-être à Moissac. On vous tient au courant. Au revoir.